Eh bien, merci. Bonsoir à tous et bien sûr, bonne Saint-Valentin à vous. Quoi de mieux que de célébrer tous ensemble le serment de Strasbourg entre Louis le Germanique et Charles le Chauve en 842 pour s'allier contre leur grand frère Lothaire. C'est aussi le premier serment, la première source historique qu'on a de la distinction entre le français et le germanique qui pourtant avaient les mêmes racines. Ou peut-être qu'on célèbre la première mention historique de la Lituanie en 1009. Ou alors, peut-être qu'on célèbre la création de l'École nationale des ponts et chaussées. Enfin, vous l'aurez bien compris, avec mon énumération de toutes les dates que j'ai pu trouver sur la page Wikipédia du 14 février, vous êtes ici dans une émission d'histoire. Mais bien sûr, la page Wikipédia manque 2-3 trucs, par exemple une naissance fort importante pour l'histoire européenne en 1995. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Revenons donc à notre émission, et vous l'aurez sûrement deviné, vous voici dans Transhistorien.
Conjurer la peur, Sienne, 1338.
Nuit! Jour! Nuit!
Wind, yes!
Oh non!
Need, no!
Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait!
Oh, the humanity!
Et malheureusement pour vous, auditrices et auditeurs de Transistor, me voici seul maître à bord pour ce transhistorien, et surtout malheureusement pour l'histoire. Alors, je suis surtout seul maître pour cette superbe leçon dans l'école historiographique que nous avons inaugurée ici même sur ces ondes, l'histoire par la connerie. Pour ceux qui auraient raté la leçon inaugurale, le principe est très simple. Notre postulat de départ est que l'humanité a un potentiel de connerie extrêmement élevé, et que la masse historique que nous avons à traiter regorge de situations que nous pouvons considérer comme des manifestations de la connerie humaine, autrement dit de bonnes grosses conneries. Ces anecdotes, bien que croustillantes, sont fortement révélatrices de manières de penser qui, aujourd'hui, nous semblent absurde, ou tout simplement conne, hein, il faut le dire. Il convient donc non seulement de se payer une bonne tranche au détriment de nos chers ancêtres, mais aussi de chercher à les comprendre et de chercher à savoir pourquoi ils en sont arrivés là. Alors, comme c'est la Saint-Valentin, je me suis dit, quoi de mieux que de prendre un sujet qui met absolument tout le monde d'accord, n'est-ce pas, hein, les animaux. Et donc j'ai choisi deux animaux particulièrement malicieux, fourbes, violents, horribles, à savoir les moineaux et les émeus. Commençons tout d'abord par un petit voyage en Australie. Nous sommes le 4 novembre 1932 dans l'ouest australien. Les hommes du Major Meredith sont en embuscade. L'ennemi est là, proche, 1 million environ. Il arrive, il s'approche et là, pa 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 ! Les soldats tirent jusqu'à ce que leurs armes s'enrayent. 12 morts et beaucoup de plumes. Cette embuscade tendue à un gigantesque troupeau d'émeus est un échec total. Les jours qui suivent n'apportent pas plus de succès. Les soldats australiens ne font pas le poids face aux émeus qui se sont organisés et qui sont doués d'une certaine agilité. Lancée le 2 novembre 1932, cette guerre avait pour objectif de se débarrasser d'un groupe d'environ 20 000 émeus qui ravageaient tout dans les fermes de l'ouest de l'Australie. Le 10 décembre, elle se termina officiellement sur un bilan mitigé. 986 émeus tués pour 9860 balles tirées, plus environ 2000 bêtes blessées selon le rapport final, et aucune perte humaine selon le Major Meredith. Alors pourquoi cette guerre contre les émeus? À la sortie de la Première Guerre mondiale, les vétérans australiens ont reçu des lopins de terre dans l'Ouest pour se reconvertir en fermiers. Sauf qu'en plus de la crise de 1929, les émeus se sont multipliés et se sont mis à dévaster les fermes, détruisant le travail des fermiers et mettant en péril l'économie et l'agriculture du pays. Donc les fermiers, anciens combattants, ont décidé de faire appel au ministre de l'armée, qui a tout de suite accepté de leur venir en aide. En effet, face à l'ampleur de la population d'émeus, on a considéré que seul du matériel militaire pouvait être véritablement efficace. Et puis, c'est une manière de tester les nouvelles mitrailleuses, hein, ça vaut toujours le coup. Malheureusement, combattre des émeus en Australie n'a rien à voir avec tirer sur des ennemis qui vous foncent dessus. Alors du coup, cette guerre, maintenant célèbre sur internet, s'est finalement soldée par la mise à prix des émeus, et en fait ça a marché particulièrement bien puisque en quelques mois, des centaines d'émeus ont été rapportées par les fermiers, les ayant chassés eux-mêmes. Cette solution était donc rudement efficace et surtout un investissement beaucoup moins coûteux que le déploiement d'une unité de l'armée. Maintenant que nous avons fini sur les émeus, je vous propose de passer un peu plus au nord, un peu plus tard. Nous sommes maintenant le 21 avril 1959 à Beijing. Voilà 3 jours que des Chinois encerclent l'ambassade de Pologne en tapant dans des casseroles. Ils n'ont pas le droit de mettre un pied chez les Polonais. Mais qu'importe, les voici qui entourent l'ambassade et qui tapent constamment sur des casseroles depuis maintenant 3 jours en se relayant. Leur but est de tuer les moineaux en les obligeant à voler jusqu'à mourir d'épuisement à cause du bruit qui leur fait peur. Le sol de l'ambassade est très rapidement jonché de cadavres de moineaux qui s'accumulent. Dans toutes les grandes villes du pays, la même méthode est appliquée. Dans les campagnes, on leur tire dessus, on détruit leurs nids, on casse leurs œufs. Tout est fait pour exterminer les moindres moineaux qui restent, qui mangent les grains et menacent d'affamer le pays sur le point de se moderniser. Cette fois-ci, c'était extrêmement efficace. Certains historiens estiment même que l'invasion de hannetons qui a suivi, causée par l'extinction presque totale de son prédateur naturel qu'est le moineau, est une des principales causes de la grande famine qui a tué environ 30 millions de personnes en quelques années. Mais ce désastre écologique ne sortait pas de nulle part. Dans le but de moderniser le pays, Mao et sa clique ont mis au point en 1958 la campagne dite des 4 nuisibles. C'était la première grande action du grand bond en avant dont le but était d'exterminer les rats, les mouches, les moustiques et les moineaux. Chaque espèce était considérée comme un frein au progrès de la Chine. Quelques cadres du parti étaient pourtant au courant du déséquilibre environnemental qui allait suivre à cause d'un précédent historique en Prusse sous Frédéric II. Mais qu'importe, le but était clair pour le parti. Identifier un ennemi commun et lancer le peuple à ses trousses. Tout ça dans le but de moderniser le pays à pas forcer. On connaît les conséquences du grand bond en avant maintenant, et la chasse aux moineaux est un parfait exemple de sa logique globale. Et ainsi se clôture donc notre 4e leçon. L'histoire regorge de petites anecdotes croustillantes parce que c'est un condensé quasi infini de tout ce que les humains pouvaient, peuvent et ont parfois malheureusement fait. Mais ils ne le font quasiment jamais sans motif, sans que pour eux ce soit logique. Et s'il faut une certaine distance pour pouvoir en rire comme la belle connerie que c'est à nos yeux, il faut aussi en tant qu'historien prendre de la distance pour comprendre le cadre et les enjeux qui ont conduit à cette connerie. Par exemple, comment une des pires défaites de l'armée autrichienne avec plus de 10 000 morts en quelques heures a été infligée par l'armée autrichienne elle-même par inadvertance. Mais ça, c'est une autre histoire.
Merci beaucoup Pierre, il est 20h30, l'heure du journal radiophonique amplifié.